Je suis Lambro, porteur d'eau. J'ai commencé à travailler très jeune pour aider mon père. Je ne suis pas allé à l'école, l'éducation c'est pour les riches comme dit mon père. Nous nous sommes levés à l'aube aujourd'hui, comme nous le faisons tous les jours. Nous avons rempli notre tonneau à la source, l'avons chargé sur notre âne et sommes partis de Maroussi, où nous habitons, pour aller à Athènes. 2 heures de route, mais aujourd'hui ça ne m'a pas paru long du tout. Je retournais sans cesse dans ma tête ce que j'avais entendu chuchoter hier dans la caserne par la cavalerie des officiers bavarois. Pendant que mon père remplissait leur réservoir, je donnais à manger à Spiro, notre âne. Sans le vouloir, je les ai entendus chuchoter les « grands événements » qui allaient se produire. Je n'ai entendu que des mots épars, mais j'ai compris qu'il était inquiet car une grande émeute se préparait. Les militaires grecs étaient furieux contre le roi et les étrangers qui l'accompagnaient. J'ai aussi entendu des gens parler de Macrigiani, que mon père admirait tant, qu'il était avec eux, mais aussi de quelques autres « grands » qui avaient secrètement promis de les aider. Lorsque j'ai demandé à mon père ce que tout cela signifiait, il m'a dit de me taire et de ne pas m'en mêler, car je me retrouverais dans de beaux draps. Je n'ai plus rien dit, mais à partir de ce moment-là, je n'ai plus pu m'en détacher. Je me réjouissais de notre itinéraire d'aujourd'hui, je savais que nous allions livrer de l'eau au café, où j'ai longtemps entendu toutes les discussions sur la politique. J'ai vu et entendu beaucoup de choses au fil des ans, après tout, personne ne fait attention à ses paroles lorsqu'il se trouve devant un petit vendeur d'eau. Ces derniers temps, les conversations s'échauffent et les querelles se terminent en querelles. Récemment, deux jeunes en désaccord sur la situation politique se sont disputés et les gendarmes sont venus les séparer. Les routes aujourd'hui, après la pluie d'hier, étaient boueuses. Il nous a fallu un peu plus de temps pour y arriver, mais nous avons finalement atteint Katsikadika, le quartier proche du palais. C'est nous qui apportons l'eau dans ce quartier, car les vendeurs d'eau ont divisé les quartiers. Les hommes des maisons ne sont pas là à 7 heures, ils sont tous bergers et vont avec leurs chèvres dans d'autres quartiers pour distribuer le lait. J'ai sonné la cloche à vache et les femmes sont sorties par les portes en portant leurs bidons. Le père remplissait leurs bidons avec l'eau de notre tonneau, un penny le bidon, et je jetais notre recette dans ma pochette que j'avais attachée autour de ma taille. Ces derniers jours, de moins en moins de ménagères se présentent à la porte lorsque la cloche de la vache sonne. Des gens pauvres vivent dans ce quartier, se forçant à gagner leur vie en vendant le lait de leur bétail. Ils ont même réduit leurs réserves d'eau. Beaucoup ne remplissent leurs bidons et leurs seaux métalliques que le samedi. Je n'aime pas du tout cela. Je n'ai peut-être pas appris à lire et à écrire, mais j'ai des yeux et je peux voir. Avec notre âne, nous faisons le tour de tous les quartiers, je connais Athènes comme ma poche. L'autre jour, nous avons traversé le jardin de la reine et je suis resté bouche bée à le regarder. Quel jardin ! On dirait une forêt, avec de très grands arbres qui atteignent presque le ciel. On ne les trouve nulle part ailleurs dans notre pays, on les fait venir de l'étranger, dit-on, pour rappeler à la reine les palais de sa patrie. Mais surtout, je me suis demandé où ils trouvent toute cette eau nécessaire pour les arroser. Comme c'est mon travail, je sais combien de boîtes de conserve ces pauvres gens de Katsikadika pourraient vraiment remplir avec toute cette eau. Mais le père me dit de ne pas me préoccuper de ces choses, de m'occuper de mes affaires, la livraison d'eau s'est terminée en fin d'après-midi. Après une courte pause pour déjeuner de pain et d'olive et pour laisser Spiro se reposer, le moment que j'attendais est arrivé. C'était le moment de livrer de l'eau au café. Nous avons commencé par le quartier de Psyri. Là, tous les cafés que seuls les Grecs fréquentent sont rassemblés, la plupart sont des personnes âgées, vêtues des longues jupes traditionnelles appelées fustanelles ou de culottes d'insulaires, portant des tsaroushias aux pieds. Beaucoup d'entre eux étaient en fait des combattants qui ont lutté contre les Turcs pendant la guerre d'indépendance. Les débats, noyés dans les nuages de fumée des cigarettes et des narguilés, tournaient presque toujours autour d'un seul sujet, la « grande idée », c'est-à-dire le moment où le reste des Grecs serait enfin libéré des Turcs, et où les régions non rachetées s'uniraient au nouvel État grec. Pourtant, j'attendais avec impatience notre dernier arrêt, le « café Grèce ». Je savais que si quelque chose d'important devait se produire, c'était là qu'on l'apprendrait. Cette boutique avait été ouverte par un Italien. Tous les Grecs et les étrangers importants le fréquentent. Je les ai même entendu dire que le roi et la reine passent souvent par là, pendant leur promenade, pour déduire par les applaudissements des spectateurs si le peuple est d'accord avec leur décision. Nous avons arrêté notre âne comme toujours à la porte arrière du café. Nous n'avons pas sonné la cloche à vache ici, car ce n'était pas bien de contrarier les clients. Mon père attendait dehors et je suis entré dans le magasin pour appeler Nicolas afin qu'il apporte les seaux en métal. Ici, nous vidions notre tonneau, 10 seaux étaient remplis à la fois. Lorsque le travail était terminé et que nous étions payés, Nicolas offrait toujours à mon père un café cuit sur la braise avec beaucoup de crème et une boule de vanille dans l'eau glacée pour moi. Aujourd'hui, cependant, je ne me suis pas assis pour profiter de sa douceur. Pendant que mon père parlait à Nicolas, je me suis glissé dans le café. Dans la première salle, comme d'habitude, des diplomates étrangers étaient rassemblés, des voyageurs et des aristocrates grecs aussi, en vêtements européens francs. Certains d'entre eux étaient réunis autour d'une grande table et frappaient des balles avec un long bâton. C'était un jeu auquel ils jouaient en Europe, comme Nicolas me l'avait dit, appelé billard. Je me suis précipité et suis entré dans la deuxième pièce. Les invités n'étaient que des Grecs, jeunes pour la plupart. L'atmosphère est tendue. Un jeune homme s'était levé et faisait un discours passionné. « Combien de temps, mes frères, allons-nous tolérer l'arbitraire ? Combien de temps allons-nous nous taire et accepter l'oppression de la monarchie ? L'heure est venue. Levez-vous contre elle. » Un autre homme, un peu plus âgé, n'est pas d'accord. « Mais que dites-vous ? Ils vont envoyer l'armée dans les rues, il y aura un bain de sang. L'armée est avec nous. » Le colonel Kalergi a conclu un accord secret avec Makrigiani et Metaxa, le chef du parti russe. Tout est arrangé. J'ai une grande nouvelle. Un troisième homme se précipite, haletant, dans le café. La gendarmerie a encerclé la maison de Makrigiani. Kalergi a incité l'armée, un bataillon se dirige vers la maison de Makrigiani pour le libérer, d'autres se dirigent vers la monnaie et la banque nationale. Allons-y, qu'est-ce qu'on attend ? S'écrie le premier homme. L'histoire s'écrit aujourd'hui et c'est nous qui allons l'écrire. Tout le monde au palais. Ils se sont tous précipités en poussant des cris comme « Vive la Grèce, vive la nation !» Sans réfléchir, je les ai suivis. J'ai serré ma pochette sur moi et j'ai couru avec la foule dans les rues boueuses. D'autres personnes se joignaient à nous depuis les ruelles, ajoutant leur voix aux nôtres. Nous sommes arrivés au palais. Il faisait déjà nuit et le tout nouveau palais illuminé était si impressionnant. Le bruit du cliquetis des chevaux se mêlait aux voix de la foule grandissante. Je me suis assis aussi loin que possible et j'ai regardé. L'armée est bientôt arrivée. Il y avait des milliers de soldats. Le colonel Kalergi se tenait fièrement debout sur son cheval. Je ne l'avais jamais vu auparavant, mais j'ai entendu mes voisins chuchoter entre eux que c'était lui. C'est par eux que j'ai appris l'arrivée des politiciens, des militants et des étrangers. Tout le monde était là. Le cri de guerre se répand rapidement, « Constitution, nous voulons une constitution !» crie la foule et les voix résonnent dans le ciel nocturne de l'Attique.